Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, la vanité de l'orgueil.
Partager ensemble une méditation propose que nous ouvrions donc notre Bible dans le deuxième livre des Chroniques, et au chapitre 32, si vous le voulez bien, et nous allons faire une lecture relativement courte. Et elle nous parle d'un roi fameux qui a régné sur le royaume de Juda. C'est il y a très très longtemps. Et il s'appelle Ézéchias. Et son histoire est quand même intéressante à prendre en considération, parce que nous avons certainement de quoi, eh bien, peut-être nourrir notre réflexion sur la foi, sur ce que nous demandons, les exaucements de prières. Et puis parfois aussi les erreurs que nous pouvons commettre. Et pourtant, Ézéchias est un roi qui s'est distingué par sa fidélité, par tout simplement sa dépendance de Dieu. Et son nom signifie tout simplement « force de l'Éternel ». Alors c'est vrai qu'une grande partie de sa vie, dans un grand nombre d'années, eh bien, il a véritablement été un serviteur de Dieu conséquent, consacré. Alors nous allons voir cela. Donc je vais lire deux chroniques, je le rappelle, chapitre 32, verset 24. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva. Et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et tous les objets qu'on peut désirer, des magasins pour les produits en blé, en moût, en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il se bâtit des villes et il eut en abondance des troupeaux de menu et de gros bétail, car Dieu lui avait donné des biens considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guillon et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Le reste des actions d'Ézéchias est ses œuvres de piété. Cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amoz, dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Ézéchias se coucha avec ses pères, et l'on l'enterra dans le lieu le plus élevé des sépulcres des fils de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort, et Manassé, son fils, régna à sa place. Alors quand on connaît bien la vie de ce roi, parce que ça couvre quand même plusieurs pages de notre Bible, dans le livre des rois, nous y reviendrons tout à l'heure, dans le livre des chroniques, et puis également il nous est donné quand même force détail dans le livre du prophète Ésaïe qui a écrit, c'est rare, mais il a écrit sur la vie de ce roi, et particulièrement eh bien, à la fin de son règne, ce qui nous occupe là dans notre récit que nous avons ouvert ce soir ensemble. Et puis, vous avez remarqué dans le premier verset que nous avons, la première phrase que nous avons lue, Il nous est dit qu'en ce temps-là, alors c'est vrai qu'en ce temps-là, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier par le fait même que le règne d'Ézéchias a été un règne quand même relativement long. Là, nous le saisissons quand même vers la moitié de son, tout simplement, dans l'exercice, la moitié de son exercice royal. Et nous savons que auparavant, il s'était distingué par, je le rappelle pour mémoire, tout simplement parce que il avait, quand il est arrivé, il était très jeune, il avait 25 ans, et il a commencé par faire le nettoyage dans son pays. Figurez-vous qu'il avait un père qui s'appelait Akaz, qui était un père abominable, on peut dire. C'est pas, vous relirez, vous pouvez retrouver ça dans l'histoire des chroniques, hein, des rois de Juda, parce que véritablement il s'était livré à l'idolâtrie, à l'adoration des faux dieux. Il avait induit son peuple en erreur dans toutes sortes de manifestations occultes. Il avait même fait rentrer un temple d'idoles dans le temple de Jérusalem. Il avait vidé le temple de Jérusalem et il avait mis un temple d'idoles. Imaginez-vous, c'était la suprême abomination, hein, dans ce temps-là. Et puis, on peut comprendre que c'était quelque chose d'impossible. Et lui, quand il est arrivé, certainement sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu, parce qu'il avait le cœur droit, c'était un homme qui avait au fond de son cœur une âme droite, et il aimait la vérité et la justice. Alors à ce moment-là, il lui est venu à cœur, après la mort de son père, de dire, eh bien non, ce que mon père a fait, c'est pas bien. C'est profondément mauvais. Moi, je vais être un autre roi pour mon peuple, pour Israël, et pour Juda en particulier, parce que c'est le peuple de Juda. Alors, on s'aperçoit qu'il va commencer à relever les portes. Il va ouvrir les portes du temple. Il va les refaire. Il va nettoyer à l'intérieur. Il va vider tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il va remettre en place la sacrificature, à la fois donc des prêtres d'Israël, les lévites. Il va les remettent en fonction, en quelque sorte, hein, parce qu'il y a longtemps que tout ça s'était mélangé, hein, entre le paganisme et puis le judaïsme. C'était une véritable cacophonie, un véritable labyrinthe épouvantable. Alors, lui, il va faire tout ça. Et à un moment donné, une fois que tout va être en place, il va célébrer une Pâque, comme il n'y en avait jamais eu, depuis des siècles, depuis le temps de Salomon, c'est le texte qui nous dit ça, qu'il a célébré une Pâque qui avait rassemblé à la fois principalement le peuple de Juda et puis aussi les peuples d'Israël séparés, eh bien, ceux qui étaient restés de la captivité, étaient venus, et c'était quelque chose d'extraordinaire parce que l'onction de Dieu est venue à ce moment-là. C'était une Pâque mémorable. Et puis, il avait fait des actes de fidélité. Et à un moment donné, eh bien, on est venu l'attaquer. Ça, c'était imprévisible parce que on pourrait se dire, mais après avoir été si fidèle, après avoir fait tant de choses pour la restauration de la foi d'Israël, eh bien, comment se fait-il que Dieu permet qu'un grand empire qui s'appelle l'empire d'Assyrie, donc les Assyriens, vienne investir pendant des mois et des mois Jérusalem, et c'est encore par la foi, avec le prophète Ésaïe, eh bien, que le roi va saisir une véritable victoire, à tel point qu'à ce moment-là, eh bien, alors que les gens sont prêts de mourir dans Jérusalem, les assaillants, les Assyriens sont odieux, hein, ils injurent le roi, mais ils injurent le Dieu d'Ézéchias, le Dieu de Juda. Et à un moment donné, tout va se retourner, c'est-à-dire qu'il va y avoir une grande confusion dans les armées des Assyriens. Ils vont certainement s'entretuer les uns avec les autres. Et finalement, eh bien, tout va se disperser. Ils vont tous se disperser. Et le roi d'Assyrie, va retourner dans sa maison. Et quand il va retourner dans sa maison, c'est ses propres fils qui vont l'assassiner. Ça, c'est une grande délivrance. Et nous voyons que nous en arrivons là à notre texte. Il nous est dit qu'en ce temps-là, alors ça faisait beaucoup de choses, hein, mais Dieu a honoré la foi de cet homme, parce qu'il était fidèle à Dieu. Alors, Ézéchias fut malade à la mort. Alors on pourrait dire, mais c'est pas possible une chose comme ça. Moi je sers Dieu, et voilà qu'il m'arrive des catastrophes sur catastrophes. Je suis attaqué, bon, Dieu m'a délivré. Maintenant, je suis atteint d'une maladie terrible, et je vais mourir, parce que vous avez remarqué avec moi, il nous est dit qu'il a été atteint jusqu'à la mort. Et Permettez-moi de relire, mais simplement pour mémoire, dans le chapitre 20 de Deux Rois, il nous est donné un petit peu le caractère même de cette maladie. En ce temps-là, toujours la même chose, Ézéchiel fut malade à la mort. Et le prophète Ésaïe est venu vers lui en lui disant ces paroles, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Il n'y a rien de plus clair. En plus, ça venait de la bouche d'un prophète, et pas n'importe lequel. Alors, Ézéchiel, il s'est dit, « Terminé. Moi, pour moi, il n'y a plus aucun espoir. » Et voilà comment il va faire. Toujours une réaction de foi. « Ézéchias tourna son visage contre le mur, et il fit cette prière à l'Éternel, « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il savait qu'il allait mourir. Il n'y avait pas d'autre choix, c'était comme ça. Et il était prévenu que finalement, sa fin était proche. Alors, nous l'avons, et nous revenons dans notre texte initial. Il nous est dit qu'il a été malade à la mort, et il a fait cette prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Ce prodige, c'est la guérison. Il y a le détail dans ce livre du prophète Ésaïe, vous pourrez le relire. Si vous avez les parallèles dans votre Bible, vous pourrez reprendre Rois, Chroniques, et puis également le livre du prophète Ésaïe. Mais en tous les cas, il a fait l'expérience que Dieu guérit. Dieu guérit en réponse à la foi. Mais vous avez vu tout de suite après, à la phrase suivante, au verset 25, il nous est dit « Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva. » Alors ça, c'est curieux. Voilà un homme qui échappe à la main de ses ennemis, qui sont prêts à l'anéantir. Bon, Dieu lui fait grâce. Il est malade, il sait qu'il va le mourir. Dieu le guérit miraculeusement, d'une façon surnaturelle. Et voilà qu'après, nous lisons tout de suite, il ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus. Car son cœur s'éleva. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est quand même assez curieux, parce que bon, quand on reçoit finalement des bienfaits, et là, je dirais que c'est plus que des bienfaits, dans ces deux épisodes que nous avons lus, c'est quelque chose de prodigieux. Ce qui nous est parlé de prodige. Donc c'est prodigieux. Et voilà qu'à un moment donné, on ne sait pas ce qui lui arrive. Eh bien, il se dit, mais finalement, est-ce que c'est bien Dieu qui m'a guéri? Est-ce que ce n'est pas le fait du hasard? C'est curieux, pour un homme de foi qui se met à vaciller, à s'interroger en disant, mais après tout, est-ce que c'est bien ça? Après tout, j'étais peut-être pas si malade que ça. Après tout, le prophète Ésaïe, qui est venu me dire que j'allais mourir, mais... Ils n'en savaient rien. Alors voyez, il y en a qui se désespèrent, mais lui ne se désespérait pas, il s'est dit, finalement. Et quand il est question que son cœur s'est élevé, c'est un mot pour qualifier ce comportement, c'est l'orgueil. Voilà, c'est l'orgueil. Qu'est-ce qui lui est arrivé à notre brave Ézéchias? Jusqu'ici, il a toujours été un homme modeste, un homme... humble, un homme docile, un homme obéissant. Il est guéri et le voilà qu'il se dit après tout, moi je suis un surhomme. Peut-être qu'il a pensé qu'il était un surhomme, il était déjà roi. Il avait eu la victoire sur ses ennemis. Il avait fait des choses formidables auparavant. Dieu l'avait béni, il avait vu l'onction de Dieu descendre au moment de cette fameuse Pâque dont nous avons parlé, où il y avait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'on peut avoir la foi, mais... il faut faire attention, c'est que on peut toucher du doigt, les écluses des cieux peuvent s'ouvrir sur notre vie, on peut recevoir de grandes bénédictions, mais pour les conserver, il faut rester humble. Voilà. Vous savez qu'il est dit à un moment donné dans l'épître de Jacques que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il faut rester humble. Parce qu'à un moment donné, on pourrait peut-être penser qu'après avoir été tellement béni, après avoir reçu tellement de dons, tellement de capacités, tellement de choses formidables qui descendent comme ça, comme un fleuve du haut du ciel, eh bien, ça peut nous prendre la tête. Et ça, c'est grave. Et ce n'est pas le cas seulement d'Ézéchias, mais ça peut être le cas de chrétiens qui réussissent dans les affaires ou autre pan. Ça peut être parfois un pasteur qui est talentueux, de par son élocution, parce qu'il a reçu des dons, parce qu'il a la capacité, au nom de Jésus, enfin la foi en tous les cas, ou le don d'amener des gens à la guérison, ou à la délivrance, et ceci et cela. Ça, c'est un danger. Attention, ce que je voudrais dire, et c'est Paul qui le dit, qu'est-ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu ? Il ne faut jamais, au grand jamais, oublier que ce que nous sommes, ce que nous avons, c'est uniquement parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. À partir du moment où nous nous approprions les choses et que nous disons « Mais finalement, je ne suis pas si mal que ça, je suis quand même formidable, j'ai quand même j'ai le savoir-faire, mais ce n'est pas le tout. Hein. » Et son cœur s'est élevé à ce moment particulier dans sa vie, à tel point que le texte nous précise que la colère de l'Éternel, eh bien, s'est manifestée. Il nous est dit que la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. C'est terrible parce que son orgueil, il avait dû peut-être le communiquer à son peuple quelque part. Et les gens disaient, mais nous sommes le meilleur de tous les peuples. Vous vous rendez compte, on a vaincu l'empire d'Assyrie. Donc, même si on n'est pas grand-chose, même si on n'est pas grand, même si on est un petit pays, même si notre ville de Jérusalem, c'est certainement pas la plus grande du monde entier, mais toujours est-il que vous vous rendez compte. Et puis notre roi, il était malade, et puis finalement, il a été guéri. Alors, vous savez, ça, il faut faire très, très attention, parce que la bénédiction, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, de formidable. N'oublions pas d'en remercier le Seigneur, mais attention, la bénédiction, elle peut, quelquefois, nous emmener très loin de Dieu, si nous ne savons pas la gérer. Quelquefois, Dieu nous dit, mais je te donne au compte-goutte, parce que si jamais je te donnais à flot, tu serais peut-être emporté par le torrent. C'est vrai. Seigneur, donne-moi des dons spirituels. Ah, oh, moi, je voudrais les plus grands dons. Pas le parler en langue, pas la prophétie, ça, c'est du commun. Mais moi, j'aimerais bien avoir le don de guérir les malades. J'aimerais bien avoir le don de la foi. Mais vous savez, pas la foi au sens, hein, mais la foi du miracle et du prodige. J'aimerais bien avoir, eh bien là, en effet, tout cela. Mais Dieu, peut-être, nous retient, parce que si nous l'avions, nous l'aurions peut-être pour un temps. Mais ce serait peut-être pour nous perdre pour tout le temps. Vous savez, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et il y a une chose que nous avons besoin de nous souvenir, c'est la prière de Jésus, quand il nous dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. » Seigneur, ce n'est pas la terre qui dirige, c'est le ciel qui dirige la terre. Et moi, je suis sur la terre. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai encore les pieds sur terre. Je ne suis pas encore au ciel. Dans le ciel, ce serait une autre affaire. Et nous avons besoin de rester modestes et humbles. Et c'est bien l'aventure qui est arrivée à Ézéchias, qui est arrivée au peuple, à Jérusalem, à Juda. Alors qu'est-ce qu'il a fait Ézéchias ? Parce qu'il a quand même un bon fond, quand même. Il nous a dit qu'Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Alors on peut se dire, mais voilà, tout rentre dans l'ordre. Mais vous savez pourquoi c'est rentré dans l'ordre ? Parce qu'il nous est parlé, à un moment donné, dans les deux extrêmes, que son cœur s'est élevé, il est tombé. Un peu plus tard, il nous est dit qu'il s'est humilié et il a été relevé. Ça s'appelle tout simplement la repentance. Et comme Dieu a vu qu'il s'était repenti, eh bien voilà qu'il a été réintégré. Et toute cette colère, parce que vous savez, s'il y a quelque chose qui déplaît au plus haut point à Dieu, c'est l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil ? C'est de se croire supérieur. C'est de se croire suffisant. C'est de dire, eh bien finalement, moi j'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin des autres. Moi je me suffis à moi-même. Ça va comme ça, c'est très bien. Et on se met à la place de Dieu, hein, en quelque sorte. Ça veut dire, mais je suis Dieu, tout simplement. D'ailleurs, ça fait partie du mensonge subtil de l'adversaire, par lequel, eh bien, les premiers hommes ont été séduits. Quand le serpent a dit à Ève, « Vous serez comme des dieux. » Oui, mais il n'a pas dit « Vous serez Dieu. » Comme, il y a une différence, hein. Et ce n'était qu'un ersasme, ce n'était qu'une caricature qui était proposée dans le mensonge. C'est ça la grande différence. Et les hommes y croient encore. Hein. Quand on voit ce que l'on constate autour de nous, ils y croient encore vraiment fermement, hein, qu'ils sont des dieux. On va aller un peu plus loin. Ceci dit, Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire, et il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, enfin, etc. et de tous les objets qu'on peut désirer. Je crois qu'après Salomon, qui a eu un règne de magnificence, Ézéchiel en avait aussi. Il y en a deux ou trois comme ça. Il me semble qu'il y a eu aussi le roi Ozias, qui a régné pendant 50 ans sur Juda, lui aussi. C'était un roi où il y avait véritablement... il possédait toutes les choses que l'on peut désirer sur la terre. C'était un peu l'idéal du bonheur humain, en quelque sorte. Mais lui aussi, Ozias, si vous en souvenez, il a mal fini. Hein. Vous savez comment il a fini ? La lèpre. Parce qu'il a voulu toucher à des choses qu'il ne fallait pas toucher. Il était roi, il n'était pas sacrificateur. Il a dit, moi je suis roi, mais je veux être sacrificateur. Eh, c'était pas son rôle. Hein. Et il est sorti avec la lèpre. Enfin, toujours est-il que c'était une petite parenthèse. Et il a eu tout ce qu'il voulait. Des magasins pour le blé, pour toutes sortes de choses. Donc, une prospérité dans son pays. Une prospérité agricole, d'après ce que l'on peut croire, au niveau de l'élevage. Et il nous est dit que quand il nous est dit qu'il avait des boucliers, hein, ça veut dire qu'il avait une armée, c'est ça. Hein. Il avait des militaires, il avait su fortifier des villes fortes pour se défendre, enfin toutes sortes de choses, naturellement. Il s'est bâti des villes, nous en parlions un instant. Il a eu en abondance des troupeaux, etc. Car Dieu lui avait donné des biens considérables. Vous savez, moi, ça me fait penser quand bien considérable, ça me fait penser à un grand homme de foi qui n'a pas varié, qui est resté dans la ligne, même s'il a quelquefois fait des erreurs. C'était Abraham. Vous savez, il nous a dit qu'il était riche, très riche, parce que Dieu lui avait donné des biens considérables. Oui, je crois que quand on cherche la fortune au loto ou autre chose, c'est tout à fait aléatoire. Hein. Mais quand on est fidèle à Dieu, eh bien, il sait nous donner, il sait nous bénir, il sait nous donner ce que nous avons besoin et nous enrichir. Toujours en se souvenant que, attention, il faut savoir gérer la richesse que Dieu nous donne. Et c'est souvent pas dans ce que nous faisons des biens qu'il nous donne, mais c'est surtout l'état de notre cœur. Voilà, on l'a dit tout à l'heure. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guillot. Il avait fait finalement une déviation des eaux. Et ça permettait à Jérusalem, finalement, même si la ville était assiégée, eh bien de conserver finalement toujours des capacités de pouvoir boire. Oui. Ça s'appelle le canal, ça s'appelle le tunnel d'Ézéchias. On a été le visiter il y a à peu près un mois et demi à Jérusalem. Très intéressant. C'est un goulet qui passe comme ça dans la montagne. C'est très, très étroit. Et on peut s'imaginer que finalement, et ça se jette un peu du côté du réservoir de Siloé. Hein, et c'est lui qui l'avait fait à ce moment-là. C'était un stratège. Il avait pensé que, quelque part, il avait des idées, des très bonnes idées. Hein. Il a réussi dans toutes ses entreprises. Mais il est arrivé aussi une chose qui va avoir des répercussions non pas tant sur sa vie, mais sur l'avenir de Juda, sur ses descendants. Écoutez bien, ça commence au verset 31. Cependant, alors quand on lit le texte, on ne voit pas forcément très clair au départ. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, écoutez bien, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Ce que je voudrais dire, c'est que à partir du moment où une première fois son cœur s'est élevé, certes il était revenu par la repentance, mais il lui était resté quelque chose au fond du cœur. Vous savez, l'orgueil, c'est comme du liseron dans un jardin, on en parlait tout à l'heure. Hein, même quand il fait très chaud, il crève pas. Hein. Tout meurt autour, mais le liseron et puis toutes ces herbes mauvaises, ça accroche, hein. Je sais pas où ils puisent leurs ressources en eau, mais toujours est-il. Eh bien, l'orgueil, c'est ça. Le problème, c'est qu'il était tombé une fois dans l'orgueil. Il s'était certainement véritablement repenti. Mais vous savez, quand le diable a une prise, bon, il peut reculer, hein. Il peut reculer à cause de notre foi. Mais il essaiera toujours de revenir et de repiquer. Et là, c'est à l'occasion d'un fait qui est tout à fait un fait normal dans un royaume. C'est que il y avait un empire émergent, puisque les Assyriens avaient été battus, ils étaient déjà en décadence, l'empire d'Assyrie, on en a parlé tout à l'heure. Mais maintenant, il y avait un empire qui se levait, toujours à l'orient de Juda, c'était l'empire de Babylone. Ce grand empire dont il nous est parlé, particulièrement dans le livre du prophète Daniel, avec un grand empereur, un grand roi qui s'appelait Nebuchadnezzar. Vous connaissez un peu tout ça. Et Babylone était là en émergence, c'était, on pourrait dire aujourd'hui, eh bien, un empire émergent. à l'époque, au moment où on est en train de parler. Et il nous est dit que le roi de Babylone de l'époque a envoyé des ambassadeurs, a envoyé des messagers auprès d'Ézéchias pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays. Alors en fait, il y en avait peut-être deux. Pourquoi ils venaient s'informer? Ils venaient s'informer parce qu'on avait dit à Babylone que le roi de Juda avait été guéri miraculeusement. Et vous savez qu'à Babylone, c'était quand même l'Empire et on pourrait dire véritablement un monde d'occulte et de magie, hein, Babylone. Ça, c'est clair, on le sait, hein, de par la Bible. Vraiment, hein. Et ça avait certainement surpris le roi de Babylone. Et il s'était dit, mais un homme qui est prêt à mourir, qui est à la mort, qui est à l'extrémité, un roi qui plus est, et voilà qu'il a retrouvé la vie. Alors il a voulu s'informer, mais il a peut-être aussi voulu s'informer, le roi de Babylone, de ce qui s'était passé précédemment. Comment un petit royaume grand comme un mouchoir de poche, avec à sa tête un roi qui est toujours naturellement Ézéchias, avait pu défaire un empire tel que la Syrie? Parce que ça restait peut-être, la Syrie restait encore une menace pour Babylone. Et Babylone peut-être avait des vues sur la Syrie pour liquider, c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Hein? Mais toujours est-il qu'il était venu parce qu'il y avait eu un grand prodige. Alors moi, je veux bien considérer qu'il n'y en avait pas eu, il y avait la guérison d'Ézéchias, mais il y avait aussi ce qui s'était passé avant. Comment? Sans livrer bataille, eh bien un empire s'effondre. Ça, c'est curieux. Hein? Mais ça venait pas d'en bas, ça venait d'en haut. Les deux, ça venait d'en haut. Alors, ces messagers sont venus pour savoir ce qui s'était passé. Et c'est à ce moment-là, quand les messagers vont arriver, il nous est dit, ça, Ézéchias ne le voyait pas, nous on le sait parce que c'est écrit dans notre Bible, mais il nous est dit que Dieu l'abandonna. Pourtant, ça avait été un homme fidèle. Ça avait été un homme qui avait fait des actes de piété formidables. Ça avait été un homme qui avait eu la foi, qui avait fait la démonstration de tant de choses dans sa vie, et Dieu l'a abandonné. Mais attendez, il faut lire la suite. Il ne l'a pas abandonné, il l'a abandonné pour l'éprouver. C'est tout à fait différent. C'est une épreuve. Parce que dans une épreuve, on passe ou on passe pas. On casse ou on se relève. Et quand on se relève, on est encore plus fort après. C'est ça le but de l'épreuve. C'est pas de nous anéantir. Quand il va y avoir, là, en ce moment, nous sommes dans la pleine période des examens pour les jeunes, eh bien, c'est exactement ce qui se passe. S'ils ont travaillé suffisamment, eh bien, ils vont passer pour aller plus loin, pour aller plus au-dessus, dans des études supérieures. Et naturellement, s'ils passent pas, ben, ils vont redoubler. Ou alors ils vont abandonner. Donc, il a été éprouvé tout simplement à travers ce fait, dans le but, Dieu qui connaît tout, c'est curieux, afin de connaître tout ce qu'il y avait dans son cœur. Vous ne croyez pas que le Seigneur le sait déjà à l'avance? Mais, néanmoins, les choses sont ainsi. Les choses sont ainsi. Alors, nous voyons que, pour peut-être avoir un peu plus de complémentarité, il faut voir un peu dans le texte, surtout du livre des Rois. Hein, c'est assez intéressant puisque on va relire un petit peu ce qui nous est dit. On va prendre donc, je lis, hein, ces deux rois, chapitre 20, verset 12. Il nous est dit qu'en ce temps-là, donc Bérodac Balaam, fils de Baladan, roi de Babylone, c'est la même histoire que précédemment, mais je suis en train de reprendre une autre chronique. Hein. Il a envoyé une lettre et un présent à Ézéchias car il avait appris sa maladie. Ézéchias donna audience à ses envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces objets précieux, l'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse, son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ces trésors, il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur montre dans la maison, dans sa maison et dans tous ses domaines. Là, on revient au problème d'orgueil dont nous avions parlé tout à l'heure avec Ézéchias. Quand il s'est agi de recevoir les ambassadeurs d'un grand empire qui allait arriver au sommet du monde, Babylone. Il s'est dit, moi le petit roi Tlé, moi le petit roi de Jérusalem, si l'on m'envoie des ambassadeurs de ce grand empire en devenir, c'est que je dois être quelqu'un. Et ça l'a repris à ce moment-là. Et c'est pour ça, hein, attention, hein, faisons attention à la flatterie. Vous savez que vous connaissez l'histoire du corbeau et du renard, hein. Ben, faut bien serrer, hein, parce qu'autrement, votre fromage, vous allez vous faire enlever. Hein. Hein, c'est très judicieux, ce qu'il a écrit, monsieur de La Fontaine. Mais je pense que, attention, et quand il a reçu, naturellement, eh bien, ses ambassadeurs, il s'est dit, je dois être quand même quelqu'un. Bon, il m'envoie des présents, il m'envoie des cadeaux, parce que j'ai été guéri, Et puis, bon, il y a bien l'histoire hein, dont on a dit comment les Assyriens avaient été vaincus. Alors il leur a donné audience. C'est lui hein, qui l'a fait. Il n'a pas envoyé un chambellan ou un subalterne. Non, c'est lui qui l'a fait. Et le texte nous dit qu'il leur montra le lieu où étaient tous ses trésors. Tout ce qu'il pouvait y avoir de grand, de somptueux, de beau, de magnifique, de majestueux. Et à la fin, il nous a dit qu'il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur montre dans la maison, dans sa maison et dans tous ses domaines. Et là, c'est une erreur. Vous connaissez votre Bible, vous savez comment ça s'est terminé après? Connaissez, vous devinez, hein? Mais bon, on va parler aussi pour ceux peut-être qui ne connaissent pas la fin de l'histoire. Hein. C'est que ces ambassadeurs, ils sont venus. Alors, je ne sais pas s'ils sont venus d'une manière grossière avec le petit calepin et le crayon de bois sur l'oreille en disant, tiens, il a ceci, il a cela, etc., etc. Vous imaginez, ce n'était pas des épiciers, hein? Oui, mais ils l'ont vu. Ils ont regardé. Et ils devaient dire, mais comment se fait-il que dans un petit royaume, il y ait tant de trésors, il y ait tant de richesses? Ces trésors et ces richesses, ce n'était pas finalement le résultat humain, mais c'était la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu, quand on la montre un peu de trop, faites-nous attention de ne pas nous la faire voler. Hein. Alors vous n'allez pas vous la faire voler comme ça, mais le diable va s'arranger pour vous la voler, d'une manière ou d'une autre. Soit que vous la perdiez, soit que vous l'égariez, la bénédiction, soit que vous la négligiez, soit que vous allez la piétiner, d'une façon ou d'une autre. Il s'arrangera toujours pour que quelqu'un vous la prenne, que quelqu'un vous la ravisse. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc ils ont regardé tous ces ambassadeurs. Ils se sont dit, bah dis donc, peut-être qu'ils se sont dit, mais on aimerait bien avoir ça à Babylone. Ils sont venus faire un inventaire, tout simplement. Et le brave Ézéchias, piqué dans son orgueil, leur a tout montré. Alors à ce moment-là, il y a Ésaïe le prophète, lui qui est en relation avec Dieu, l'homme de Dieu, l'homme qui a la vision de Dieu, qui a la pensée de Dieu. Il nous est dit que Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, mais il parle au nom de Dieu, mais qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien de mes trésors que je leur ai montré. Eh bien, il aurait mieux fait de garder tout ça pour lui et de ne pas le montrer à des étrangers. Et vous savez, on comprend pourquoi Jésus nous dit, ne donnez pas vos perles et les choses saintes aux pourceaux. Sermon sur la montagne. Parce que vous savez que ça intéressera toujours des gens, et des gens mal intentionnés, indélicats. Alors Ésaïe a dit à Ézéchias, et là c'est terrible ce qui arrive, écoute la parole de l'Éternel, voici les temps viendront, où l'on emportera à Babylone, oui, tout ça, ils ne sont pas venus pour rien, hein. On l'emportera tout ton trésor, tu es fier de ton trésor, tu es fier de ta réussite, tu es fier de la bénédiction de Dieu, mais un jour, il faut que tu saches, mon brave, que eh bien, tout ça, ça ira à Babylone. Tout ce qui est dans ta maison, ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien. Et de fait, c'est ce qui s'est passé en l'an 605 ou 606, quand quelques générations plus tard, avec des rois de Juda qui étaient plus ou moins bons, bien, et plus mal que bien, jusqu'à un moment donné, où Dieu maintenant a dit, on met un terme au péché d'Israël et de Juda, et ils vont aller à Babylone, je les envoie en exil, en déportation, et là, ils seront guéris de l'idolâtrie. Vous vous rendez compte que Dieu, pour guérir Juda et Israël, les a envoyés, eux qui étaient tombés dans l'idolâtrie, hein, les Israélites étaient tombés dans l'idolâtrie, il les a envoyés dans un pays d'idolâtrie. Nous, on aurait peut-être fait le contraire en disant, on va les sevrer, on va les envoyer dans un pays où tout est clean, tout est bien, tout est formidable. Enfin, il n'y en avait pas 36 comme Israël. Mais il va les envoyer pour qu'à un moment donné, ils en aient... Ils n'en peuvent plus. Ils n'en veulent plus. Parce que des idoles, des toutes sortes de superstitions, de magie, d'occultisme et de... toutes sortes de choses. Dieu les envoie là-bas pour qu'ils soient désintoxiqués. Vous savez, quelquefois, pour être désintoxiqués, Dieu nous plonge dans le mal. Ah, il va nous laisser. Hein. Enfin, c'est pas lui qui nous plonge, mais on y va tout seul. Hein. Et on descend bien, et quand on est dans la boue, on dit « Seigneur, on aimerait peut-être remonter un petit peu à la surface parce qu'on ne peut plus, ça devient insupportable. » C'est comme ça, malheureusement. Hein. C'est comme ça que le fils prodigue est revenu vers son père. Il est revenu sale, blessé, nu, c'est vrai, mais il est revenu. Alors, il n'en restera rien, et l'on prendra tes fils qui seront sortis de toi, et que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. C'est terrible ce qui est arrivé. Et tout ça, à la base, l'orgueil. Ça pouvait être bien, c'était formidable le début de la vie d'Ézéchias. Il a marché avec Dieu pendant des décennies, pendant des années, jusqu'au moment où son cœur a été pris par l'orgueil. L'orgueil n'est pas toujours le même pour les uns et les autres. Oui, pour les uns, ils vont tomber dans l'orgueil en raison de ceci, d'autres en raison de cela. Mais le Seigneur, comme nous l'avons lu, éprouvé pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça se termine comme ça. Ézéchias répondit à Ésaïe. C'est pour dire que quand même, malgré tout, il est prêt à entendre Ézéchias. C'est quand même un homme de Dieu. Bon, il fait des erreurs, c'est vrai, mais il dira « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Elle n'était pas bonne, hein, parce que, quelque part, c'était la fin du royaume. Ses enfants, ses petits-enfants, ses successeurs au trône allaient véritablement faire des choses abominables et à un moment donné, ils allaient être emmenés en déportation pendant 70 ans. Et il dira « Mais c'est bon. Ouais. » Parce que je crois que c'est pas que les choses vont être bonnes dans les conséquences. Mais il dit « Seigneur, ce que tu viens de dire dans ton jugement, eh bien ton jugement est bon. » C'est dur de dire « Seigneur, hein, ton jugement est bon. » Parce qu'avec le jugement de Dieu, il y a toujours une rédemption. Ouais. Eh oui, Dieu ne veut pas nous abandonner. Dieu ne s'est pas résigné et ne se résignera jamais à nous abandonner entre les mains de l'adversaire du mal, des ténèbres. Il veut nous emmener malgré tout à la lumière, à la sainteté. Et il veut nous emmener dans son royaume. Pas le royaume de Babylone, même si on doit faire un petit tour, en conséquence de nos folies, mais le royaume de Dieu. Alors elle est bonne, et il ajouta, « N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ?» On sent qu'il est angoissé à ce moment-là. « Moi, est-ce que véritablement je vais voir tout ça ?» Et on sait très bien que, quelque part, Dieu fera grâce à Ézéchias. Pendant toute sa vie, il y aura encore la paix et la sécurité. Mais attendez, je reviens à sa maladie. Vous savez, à un moment donné, dans le texte justement de roi, quand il a prié le long du mur et qu'il a dit à Dieu « Guéris-moi, je ne veux pas mourir », Dieu a entendu, il a envoyé le prophète. Ésaïe était sorti, alors je lis le texte maintenant, et n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Il lui dit « Mais tu vas dire maintenant à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai, le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Écoutez, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai. » Voilà. Dieu lui dit, tu vois, t'as prié, t'as la foi, j'ai revu ta foi, j'ai bien reconnu ta foi, je vois que tu t'es humilié, alors je vais te guérir. Et ça pose la question, et je terminais là-dessus, ça pose la question que nous pouvons tous nous poser à un moment ou à un autre. Il y a quand même une grande différence entre ce qui est bien et ce qui est le meilleur, entre le bien et le meilleur. Parce que s'il était mort, Ézéchias, il n'aurait pas eu ce fils qui est né après sa guérison, qui s'appelait Manassé, qui a été le roi le plus infect, le plus abominable, le plus exécrable, le plus abject que le royaume de Juda n'ait jamais connu. Alors on se dit, s'il était mort, Ézéchias, je ne sais pas ce qui serait passé après, il y en aurait eu un autre qui serait venu, il aurait monté sur le trône. Mais c'est précisément ce Manassé qu'il a eu, qu'il a engendré après sa guérison, et qui a été véritablement la goutte qui a fait déborder le vase dans la colère de Dieu pour emmener Judas, il y en aura d'autres après, Judas en exil. Alors c'est vrai que quelquefois on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui est bon pour moi? Quand je te demande une bénédiction, des choses qui sont indifférentes de la vie, les choses qui sont importantes peut-être pour ma vie morale, ma vie spirituelle, les choses que je convoite, les choses que j'aimerais tellement avoir parce que les autres les ont. Est-ce que je dois les prendre ou est-ce que je... Seigneur, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, je crois que la meilleure des prières, c'est que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel, parce que nous, on ne peut jamais prévoir ce qu'il adviendra de notre vie. Par contre, lui, le Seigneur le sait. Mais comme il a pleuré, notre brave Ézéchias, il a dit « Seigneur, je veux mourir !» Et il a versé d'abondantes larmes, il a supplié « Seigneur, je ne veux pas mourir !» C'était tout à fait légitime, un homme n'a pas forcément envie de mourir. Ben, Dieu lui a dit « Ben voilà, tu auras 15 ans de plus. » Mais pendant ces 15 ans, c'est là où il a reçu les ambassadeurs de Babylone, parce qu'autrement, s'il était mort, il ne serait pas venu le voir, puisqu'il avait reçu un prodige pour être guéri. Et il a eu ce fils qui s'appelait Manassé. Et je peux vous dire que là, ça a été la fin du fin. C'était la fin de tout. Hein. C'était terrible. Alors, Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin? Tu vois, Seigneur, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela. Mais tu sais, quand je te demande une chose, je veux te dire, Seigneur, que ce soit vraiment pour ta gloire. Que ce soit vraiment pour la gloire de ton nom. Que ce soit pour ce soit une bénédiction pour les autres, parce que Manassé, ce n'était pas une bénédiction pour les autres, hein, je peux vous le dire, hein, il faisait tuer tout le monde. Ce soit une bénédiction, c'est vrai pour moi, mais que cette bénédiction, elle me garde dans l'obéissance à ta voix, à ta parole, qu'elle me garde dans l'humilité, qu'elle me garde dans la modestie, et puis ça sera bien, Seigneur. Quand on demande des promotions, quand on demande la fortune, je ne sais pas si les chrétiens le demandent, mais ça peut arriver. La réussite, ceci et cela. Vous savez, quelquefois, on l'a constaté dans le ministère pastoral, on a vu. Enfin, je ne dis pas ça, c'est pas... Vous savez, il faut voir les choses, il faut les analyser cas par cas, hein. Ce n'est pas une généralité. Hein. Moi, je ne suis pas... Non, je ne veux pas dire ça comme ça. Mais on a vu quelquefois des frères... Moi, j'ai connu, en tous les cas, certaines personnes qui se sont retrouvées un directeur général PDG et qui sont montées comme ça. Et je peux vous dire, à partir du moment où ils sont arrivés au sommet, terminé. Hein. Terminé. Attention. Je parle de la vie professionnelle. Hein. Parce que bon, c'est comme ça, tout simplement. Ou l'argent. Parce que vous savez, ce monde, certaines catégories, certaines choses qui sont offertes dans ce monde... Ça peut nous tourner très vite la tête, hein, parce qu'on est entraîné, on est embarqué dans une... Et le bateau, c'est pas nous qui le menons, hein, même si on dit qu'on est le capitaine, pas du tout. Hein. Il y en a d'autres, hein, il y a des voiles, hein, et ça peut nous emmener très loin. Alors, Seigneur, on conclut, ça veut dire tout simplement, mais Seigneur, donne-moi la bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin, dixit le livre des psaumes dans notre Bible. Seigneur, si c'est une bénédiction qui véritablement... Eh bien, et pour ta gloire. Alors je dis Amen. Je dis oui, Seigneur. Bénis-moi de cette manière. Puis pour le reste, eh bien, tu me le donneras. Si tu me le donnes. Si tu me le donnes pas, eh bien, tu me le donnes pas. Vous savez, c'est ce que Paul disait. Si je vis, eh bien, voilà. C'est pour vivre, c'est pour mourir. Mais Seigneur, c'est toi qui tranches les choses. Voilà. Que j'ai ou que je n'ai pas. Parce que mon véritable trésor, finalement, c'est toi. Vous savez, le plus important, c'est la main de celui qui donne, c'est pas ce que nous recevons. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. On va prier quelques instants, simplement. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour cette belle histoire, parce qu'elle reste belle. Elle reste belle parce que elle est toujours pour remettre les choses en place, c'est-à-dire mettre le bien en évidence, et puis nous avertir que le mal existe, et que ce mal, eh bien, nous ne pouvons l'avoir à l'état embryonnaire, quelques racines, Seigneur, dans notre cœur, parce que qui pourrait prétendre qu'il est débarrassé de toute racine de mauvaises choses ? Seigneur, nous savons que nous vivons dans un monde discutable, disputé, un monde où nous-mêmes nous sommes contestés. Et Seigneur, en effet, il y a la nature, il y a notre humanité, il y a en effet, Seigneur, toute cette corruption ambiante. Et Seigneur, nous ne voulons pas nous croire supérieurs. Nous ne voulons pas penser, Seigneur, que nous sommes plus forts que les autres. Alors, nous voulons te remercier, Seigneur, pour l'histoire d'Ézéchias. C'est vrai, Seigneur, qui est malgré tout et a été quand même un roi, un grand roi, puisque nous l'avons lu, eh bien, il avait été placé dans la partie supérieure, en effet, des tombeaux des rois d'Israël. C'est-à-dire que c'était un grand roi. Mais Seigneur, son histoire, sa vie, est là pour nous enseigner qu'en effet, à être des débonnaires, à être véritablement désintéressés, et même lorsque nous avons quelque chose, eh bien, Seigneur, de ne pas perdre de vue que c'est encore, en effet, Seigneur, ta bonté, ta fidélité, ton amour pour nous, qui nous vaut, en effet, d'être et d'avoir ce que nous sommes et ce que nous avons. Seigneur, tu nous visites maintenant et tu nous donnes, Seigneur, ta sagesse. Oui, Seigneur, comme David pouvait le dire, mets ta sagesse dans mon cœur. Alors, c'est ce que nous te demandons ce soir. La sagesse de Dieu, la sagesse de l'esprit, l'amour de la vérité, l'esprit de la vérité. Merci, mon Dieu, et garde-nous de l'orgueil. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.